Religion, raison et ruse, forme du discours et milieu carcéral. Langage et expérience du monde. On ne saurait sous-estimer l'impact du langage sur les sociétés humaines. En effet, notre rapport au monde n'est jamais direct et immédiat. Notre rapport au monde est toujours filtré par le langage, c'est-à-dire par une grille de lecture partagée avec un groupe, transmise par lui et qui donne son sens à notre expérience du monde. Le sens que nous trouvons à la vie est ainsi toujours tributaire de la qualité du partage avec autrui de la grille de lecture donatrice de sens. Qui sera notre langage commun, notre culture commune? Cette grille sémantique est composée de signes linguistiques artefactuels, qui sont les unités atomiques de la culture partagée. En l'absence d'une origine innée et génétique des caractères culturels, le langage est donc un système de signes, de mots et d'idées transmis essentiellement à partir de la naissance par imprégnation culturelle acquise, conventionnelle et construite historiquement, système au travers duquel nous avons accès au monde sémantique des humains. Sans le langage, il devient impossible de nommer quoi que ce soit et l'échange avec autrui se limite donc à des rapports physiques simples. Sans le langage, pas de culture, pas de civilisation, pas de religion, pas de science, ni d'art. Une telle forme de vie pré-linguistique est appropriée à la plupart des espèces animales, sauf à la nôtre, dont l'existence collective normale ne peut se passer du recours aux mots et aux idées. Langage et lien social sont donc synonymes pour nous. Le langage imposant toujours des règles de communication, il impose simultanément une structure mentale. Cette structure cognitive, qu'on appelle aussi la compétence linguistique générale, est transmise par toutes les langues particulières. On l'apprend en apprenant n'importe quelle langue, car elle est la structure commune à toutes les langues, fondement commun à toutes les cultures. Elle constitue ce que la psychanalyse appelle le sujet parlant. Il s'agit du patrimoine identitaire commun à tous les humains. Acquérir cette compétence linguistique dans les premières années de la vie produit un impact majeur. On assimile que le rapport à autrui ne peut pas être purement physique, mais qu'il doit être aussi médiatisé par le verbe. Cela revient à assimiler le cadre général de toute vie en société civilisée. La civilisation, c'est admettre que le verbe et non seulement le physique, soit au cœur régulateur de nos vies. Entre moi et autrui, mais aussi entre moi et toutes les choses du monde, doit venir s'interposer la grille du verbe et du langage, composée de mots et d'idées, comme un filtre ou une référence qui définit les règles de communication entre moi et autrui, ainsi que mon rapport au monde. Comment fonctionne cette grille filtrante ? Elle impose des règles relationnelles, c'est-à-dire des lois et des limites. La relation entre moi, autrui et les objets du monde ne se fait pas au hasard ou selon le pur plaisir. Cette relation est ordonnée par les règles de la grille verbale filtrante ou compétence linguistique. Quelle que soit la relation, moi et autrui, ou moi et l'objet, nous ne sommes en fait jamais seulement deux. En réalité, il y a toujours moi, autrui, et la règle du jeu entre nous, ou moi, les objets, et la règle du jeu pour les utiliser, ou les prohiber. L'apprentissage de ce rapport à trois, avec une règle du jeu verbale entre moi et le reste du monde, est au fondement de toute vie sociale. Ces fondamentaux de toute vie sociale sont inculqués par le fait d'apprendre une langue, la culture qui va avec, et de respecter leurs règles, quelles qu'elles soient. Être capable de communiquer par le langage avec autrui, autrement dit être capable de socialisation, c'est la même chose que se soumettre au verbe et à la loi fondamentale, prototype de toutes les autres lois. Une troisième équation peut donc être posée, entre langage, lien social et loi. la fabrique de l'insécurité. Ne pas respecter la loi, c'est en réalité ne pas respecter le verbe, c'est-à-dire ne pas respecter les règles élémentaires de communication avec autrui. Le trouble du lien social, les comportements pathologiques et pervers qui peuvent conduire en prison ont ainsi pour origine des troubles du rapport au langage. Tous les problèmes spécifiquement humains résultent du rapport, parfois perturbé, au langage et aux normes collectives qu'il véhicule. Les fluctuations de la délinquance et de la criminalité dans une société n'y font pas exception. Or, en termes de gouvernance moderne, c'est-à-dire d'ingénierie sociale, la fabrication de l'insécurité fait partie des méthodes de gouvernement. Le petit livre, Gouverné par le chaos, inspiré par l'affaire de Tarnac, dresse un panorama de ces diverses tactiques de contrôle social qui peuvent aller jusqu'à la mise en scène médiatique de fausses menaces terroristes et, si cela ne suffit pas, jusqu'à provoquer de vrais attentats qu'on attribuera à tel ou tel bouc émissaire. Attentats dits sous fausse bannière ou false flags. Qu'on l'appelle encore stratégie du choc ou pompier pyromane ou problème-réaction-solution ou destruction créatrice, comme chez Schumpeter, il s'agit toujours de ce même algorithme, validé au niveau scientifique par la psychologie sociale et la cybernétique, et enfin appliqué dans le management sous le terme de « conduite du changement ». En deux mots, provoquer intentionnellement des crises dans un système donné pour l'affaiblir, puis apporter des réponses déjà préparées et stratégiquement orientées pour prendre le contrôle du système et le piloter là où on veut qu'il aille. Augmenter intentionnellement le taux de violence d'une société devient ainsi un moyen de régner sur elle et de gouverner par le désordre que l'on parvient à y instiller. Cette augmentation méthodique de la violence sociale s'induit notamment par un travail sur le langage commun de la société en question, en attaquant la compétence linguistique et ses deux piliers, les notions de loi et les notions de limite. En France, deux ministères sont particulièrement concernés par cette production intentionnelle de violence sociale. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale. Passons rapidement sur le secret de Polichinelle des brigades de policiers casseurs ou appariteurs qui a émergé dans les médias à l'occasion des manifestations de l'automne 2010 contre la réforme des retraites et dont la mission, qui consiste à entretenir un niveau constant de tension et d'insécurité pour justifier en réponse une surveillance toujours accrue des citoyens, se joue et fait encore davantage dans les quartiers sensibles lors d'émeutes urbaines soigneusement planifiées. Ces coups tordus et autres « black operations » mis à part, c'est essentiellement par la suppression de postes de fonctionnaires et par des réductions budgétaires drastiques que le travail normal de la police ou des enseignants est rendu impossible. Prétextant d'une dette publique largement fictive, un sous-effectif chronique et une pénurie de moyens criants sont organisés dans ces deux ministères, avec des conséquences terribles sur l'élaboration du lien social dans le pays, conséquences observées et dénoncées par les agents de terrain eux-mêmes et leurs syndicats. On devine aisément pourquoi la déconstruction de ces deux institutions d'État est à ce point cruciale. Hormis la privatisation escomptée de tous les services publics à des fins de reféodalisation du champ social. Michel Foucault, le sociologue, l'avait bien compris. La police et l'éducation partagent une racine théorique commune qui consiste en l'inculcation de structures mentales et comportementales. En se dégageant de tout a priori idéologique libertaire, cette racine commune apparemment répressive doit être aujourd'hui décrite également comme un facteur civilisateur qui consiste essentiellement en l'articulation dialectique des limites comportementales à respecter pour vivre en collectivité. Apprentissage et respect des conventions, des structures et des limites, des lois et des frontières indispensables à toute vie collective, voilà à quoi nous introduit la compétence linguistique. la cible de l'ingénierie sociale, en tant que fabrique de chaos, est très exactement cette capacité dialectique véhiculée par le langage, incarnée dans un État moderne, notamment par les deux services publics cités précédemment, sans oublier la justice, évidemment, et que la psychanalyse appelle « surmoi » ou encore « fonction phallique ». Détruire l'empathie. Voyons plus précisément comment s'y prendre pour déconstruire cette fonction surmoïque et faire régner le chaos social et l'insécurité. On y parvient essentiellement par la promotion et la généralisation d'un certain type de rapport au langage que l'on pourrait appeler métis, d'après le nom d'une figure de la mythologie grecque et traductible par la notion de ruse. Un usage rusé et instrumental du langage engendre un rapport à autrui qui sera lui aussi rusé et instrumental. Notre rapport au langage détermine notre rapport à autrui. Il semble que ce rapport d'instrumentalisation rusée du langage et d'autrui soit une caractéristique typique des individus qui se mettent hors la loi. Leur profil psychologique, dit de sociopathe pervers, se rencontre depuis les banlieues difficiles jusqu'au sommet du pouvoir chez les promoteurs de lois scélérates, par exemple, qui sont en fait des lois pour ne pas respecter la loi, donc pour ruser avec elle et avec autrui. Le cadre général de notre réflexion nous a été fourni par la remarquable étude intitulée « Raconter, démontrer, survivre » de Marília Amorim. Cette enseignante brésilienne a travaillé dans les quartiers défavorisés de Rio de Janeiro, où elle a pu observer sur le terrain la violence des favelas et les processus criminogènes conduisant en prison. Son expérience lui a servi de point de départ pour des recherches menées au département de psychologie sociale de l'Université fédérale de Rio, puis au département des sciences de l'éducation de l'Université Paris 8 Saint-Denis. En s'appuyant sur les historiens de la Grèce antique pour éclairer l'actualité, Marília Amorim distingue trois types de rapports à la connaissance et au langage. Trois formes du discours qui correspondent au comportement formant la trilogie du titre de son ouvrage. Le premier type est le mythos. C'est le savoir narratif, où la connaissance est racontée, traductible par « religion ». Le deuxième type est le logos. C'est le savoir analytique, où la connaissance est démontrée, traductible par « raison ». Le troisième type est la métis. C'est le savoir instrumental et pratique où la connaissance sert à survivre. Or, comme le dit Marília Amorim, ce savoir pratique, métis, étant fondamentalement un savoir de la ruse et de la survie dans les situations immédiates, sa caractéristique principale est celle de ne se fixer en aucune forme, de ne garder rien en place, et d'être en mouvement incessant. La culture contemporaine met en avant la forme métisse de savoir, au détriment des deux autres. Mythos et logos, en produisant en plus, pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, son autonomisation. Les valeurs dominantes deviennent alors celles de la survie individuelle. La réussite, l'efficacité, le sauve-qui-peut. Les tactiques et les stratégies deviennent le grand art dans les rapports sociaux ainsi que dans les rapports aux objets, ce qui veut dire que même la recherche et l'éducation deviennent soit une affaire de ruse, soit une affaire de bricolage ou technique. Cette intelligence purement pratique, convoquée lorsqu'un sujet est dans une situation où, manquant de repères, il s'agit d'abord de survivre, a infusé toute l'époque. La gestion de crise devient le paradigme global de nos vies et la ruse instrumentale le seul rapport à autrui. Du moins, c'est le modèle comportemental exclusif proposé par l'idéologie du marché, de la consommation et du spectacle. C'est aussi le modèle qui s'impose dans les milieux sociologiques où la notion de loi a été déracinée de la tête des gens, que ce soit dans les milieux du pouvoir, politique, finance, show business, ou dans certains quartiers populaires périurbains ou non. À l'opposé de cette ruse instrumentale se tiennent le mythos et le logos, deux rapports au langage distincts, mais dont le point commun est le respect d'une loi, obligeant au respect d'autrui. Mythos, ou religion, et logos, ou raison, respectent chacun une loi, celle de Dieu ou celle de la logique. Dans un groupe humain, religion et raison imposent donc des règles communes de communication et de comportement, des règles éthiques. La ruse, par contre, ne respecte que ce qui marche, afin d'obtenir que ce que je veux. La ruse est toujours purement stratégique et pratique. S'il est donc possible de fonder un groupe social sur la religion et sur la raison, il est en revanche impossible de créer du lien social par la ruse, car la ruse est toujours individualiste. Dans un milieu où domine la ruse, les alliances entre individus existent, mais elles sont toujours précaires et à court terme. Il est possible de créer des groupes, des bandes, des gangs, mais les trahisons sont courantes, dès lors qu'on est insatisfait des lenteurs de la stratégie. La ruse comme espace linguistique et mental ne propose pas d'universaux dépassant le cadre de ma simple petite vie individuelle. Je ne suis donc pas éduqué à la vie en collectivité. Pour dépasser mon cas personnel, égocentrique, et me projeter dans une collectivité sur le long terme, je dois être accoutumé à un langage qui parle justement des universaux qui dépassent ma vie individuelle, ce que réalise, ce que performe, religion et raison. Ces deux formes du discours ont donc une influence socialisante positive, car elles m'obligent à prendre conscience que je ne suis pas seul sur cette terre, qu'il y a de l'autre à respecter, mais aussi avec lequel je peux communiquer ou communier, comme dirait Régis Debray, dans un cadre de loi partagée. En un mot, religion et raison m'apprennent l'empathie, synonyme de dialectique et d'articulation entre ego et alter, condition de base de toute vie en société. Sublimation ou toxicomanie. Les contacts que nous avons eus avec un ancien détenu et avec un aumônier par l'intermédiaire d'une association située en Seine-Saint-Denis nous en ont convaincus. Paradoxalement, le milieu carcéral n'est pas un milieu de loi partagée. C'est un milieu de survie physique et psychique, pratiquement dénué d'empathie et où règne la loi du plus fort. Une violence sourde en est la toile de fond permanente, que l'administration pénitentiaire ne cherche pas vraiment à résorber. Le plus difficile à supporter n'est pas tant la privation des libertés que le rapport de force entre détenus. Il arrive que certains plus sensibles que d'autres ne sortent pas de leur cellule pendant des mois, par peur de ce qui pourrait leur arriver pendant les heures de promenade ou à la douche, ou à commencer par le racket systématique et à finir par le viol ou le lynchage public. Ces tensions qui explosent régulièrement contre autrui ou contre soi par le suicide ne parviennent à être pacifiées que par les stupéfiants légers, les médicaments psychotropes, les consoles de jeux vidéo, la télévision et la pornographie. Faible moyen en vérité qui n'offre aucune perspective de construction sur le long terme. La prison est un milieu à l'image de ce que le monde occidental tout entier est devenu, une zone de non-droit, concentrationnaire, dépressive, nihiliste, matérialiste, où le plus fort l'emporte toujours sur le plus sage. Donc, favorable au développement exponentiel de la ruse instrumentale comme unique rapport à autrui. La loi de la soumission au plus fort est une négation de la loi civilisatrice de la soumission au verbe. Dans un tel cadre, se consacrer à la spiritualité ou reprendre des études, en un mot, se remettre sous l'autorité du verbe, sont des actes de négation de la négation, donc des actes positifs et constructifs de courage et de résistance mentale, des preuves d'une envie de vivre authentiquement humaine et civilisée. Cherchant à s'extraire de la survie au jour le jour et du court terme pour se projeter dans un avenir mature et signifiant. Quand on demandait à Freud ce que c'était qu'être normal, il répondait « aimer et travailler ». Spiritualité et études peuvent être en effet comparées à des bouées de sauvetage dans un océan de désublimation et de toxicomanie compensatoire. L'identité humaine, et avec elle le fondement même de la civilisation, repose sur un principe très simple, que la psychologie a désigné du terme de « sublimation ». La sublimation consiste à désirer des mots, donc des signes, plutôt que des objets. La sublimation consiste aussi à faire en sorte que le comportement soit déterminé par des mots plutôt que par des objets. Il s'agit de faire en sorte que nous agissions davantage en fonction de mots, donc d'idées, de valeurs, de symboles, de concepts, bref, de signes, qu'en fonction de contraintes physiques, qu'elles soient internes et relatives à nos besoins corporels ou externes et dues à l'action sur notre corps. Autrement dit, la sublimation consiste à se soumettre au verbe, à structurer le comportement en fonction du langage et des idées, et non pas seulement en fonction de rapports de force matériels ou de besoins physiologiques. En résumé, la sublimation est le nom technique de la spiritualité. Par définition, le déficit de sublimation, donc de spiritualité, caractérise nos sociétés de consommation moderne. Il faut bien dire « par définition », puisque par nature, la logique de la consommation et du marketing vise explicitement à nous faire désirer des objets plus que des mots. Cessez de parler et achetez. Cessez de vous intéresser aux idées. Arrêtez de parler entre vous. Arrêtez même de prier et intéressez-vous uniquement aux objets que nous vous vendons. Cette injonction aboutit à un appauvrissement symbolique et à des pathologies sociales qui bien souvent conduisent les plus fragiles en prison. Dans ce processus criminogène, les publicitaires sont les premiers dealers. Depuis ses origines dans les années 1920, le marketing cherche à provoquer un vaste mouvement de désublimation, c'est-à-dire de remplacement du sens par la sensation. Il est ainsi le premier facteur de toxicomanie et d'addiction depuis près d'un siècle. La définition la plus générale de toxicomanie se comprend dans la recherche de sensations fortes pour répondre à un déficit de sens. La toxicomanie est la consommation compulsive d'objets matériels toujours plus excitants pour le système nerveux afin d'essayer de remplir une existence qui a été au préalable vidée de sa signification. Le sens et la sensation obéissent au système des vases communicants. L'un monte quand l'autre descend et vice-versa. Ce mécanisme est conforme à cette découverte de Lacan. Ce qui n'est pas symbolisé revient dans le réel. La symbolisation, c'est l'élaboration d'un sens fort par la religion ou la raison. Quand un sens fort ne peut pas être élaboré avec des mots et des idées, le désir humain cherche des sensations fortes au moyen d'objets matériels de substitution. Si le désir de vivre qui nous habite ne parvient pas à se réaliser dans le symbole et le langage, il n'a plus alors qu'à se satisfaire en dehors du langage et au moyen d'objets compensatoires. Ces objets de compensation peuvent être évidemment des substances psychotropes. Alcool, cigarettes, haschich, cocaïne, héroïne, acide, etc. Mais aussi des images et des sons saturés, de la nourriture, des vêtements, des bijoux, des cosmétiques, des possessions diverses. Villa, voiture, yacht, jet privé. Ou encore du sexe ou du sport en proportion excessive. Un principe de saturation sensorielle régressive se substitue alors à la recherche de stimulation sémantique. Provoquée par l'émergence des réseaux de communication numérique dits nomades, de nouveaux comportements d'addiction se sont normalisés récemment sous la forme de connexions permanentes au téléphone mobile ou à Internet. On voit là une tentative de réponse à l'angoisse générée par une intolérance croissante à la solitude et la conséquence d'un lien social rendu toujours plus précaire. En effet, nous avons besoin de « jouir » au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire de trouver une stimulation dans notre vie. Or, la jouissance normale, dite aussi « phallique » ou « symbolique », doit être soumise au verbe, donc sémantique, linguistique et constructive, car intrinsèquement socialisante. Quoi de plus stimulant et jouissif, au sens noble du terme, que de prier ensemble, ou de jouter verbalement comme le faisait Socrate, selon qu'on est de sensibilité mythique ou de sensibilité logique. Quoi de plus authentiquement humain et civilisateur que d'être ensemble dans la récitation et le verbe. Les comportements toxicomanes et déviants, c'est-à-dire les comportements purement individualistes, apparaissent dès lors que cette jouissance symbolique, toujours collective, socialisante et empathique, ne peut se mettre en place. « Je fais ce que je veux », dit le toxicomane. Qu'il soit issu d'un quartier défavorisé ou qu'il gagne des millions en tant que trader dans une tour de la défense. Il dit encore « Je n'obéis qu'à ma recherche de sensations fortes. Autrui n'est qu'un moyen d'y parvenir. Je ne lui parle que pour ça et jamais pour élaborer ensemble un sens fort et commun qui nous dépasse en tant qu'individu. » Le toxicomane moderne présente ainsi ce profil psychologique de sociopathe pervers ou de psychopathe suradapté. Il ne connaît qu'un rapport rusé et stratégique au langage et à autrui. Le rapport désintéressé, spirituel, esthétique, théorique aux choses, lui est étranger. Il s'y ennuie et il a l'impression de perdre son temps. La notion de loi lui est étrangère également, car elle suppose de brider et d'inhiber son rapport aux objets et à autrui. « Toujours plus !» réclame le sociopathe anomique, qui, par définition, ne tolère aucun principe de modération ni de respect d'une limite comportementale dans sa vie. Apparemment en pointe sur ces questions, les pays anglo-saxons publie régulièrement des rapports de psychologie sociale qui mettent en évidence la surreprésentation de ce profil pervers dans les milieux du pouvoir. Une étude de 2010, parue dans la revue Psychological Science, montrait que la capacité d'empathie varie avec la classe sociale et que les riches en ont moins que les pauvres. Mais le plus inquiétant est d'observer la contamination épidémique de ce profil pervers et dépourvu d'empathie dans les milieux populaires qui, normalement, lui résistent. La promotion d'un modèle psychologique et comportemental désinhibé, donc totalement pervers au sens clinique du terme, oublieux de la loi et dénué d'empathie, y est assurée par un travail quotidien de suggestion des médias de masse, notamment à travers le marketing. Pour résister à ce lavage de cerveau de chaque instant, il faut disposer d'armes mentales, ce que la psychanalyse appellerait un surmoi en bonne santé, une loi, une limite comportementale intériorisée, divine ou rationnelle, assurant le contrôle et l'inhibition éthique des pulsions narcissiques primaires. Ce que George Orwell, de son côté, avait baptisé la « common decency », une morale ou un bon sens commun. Or, tout le monde n'a pas été doté d'un surmoi suffisamment élaboré pour se dire qu'il peut vivre sans le dernier portable à la mode ou sans telle paire de chaussures de marque. Et tout le monde n'a pas reçu les moyens psychiques de se retenir de voler ses produits ou de voler l'argent pour les acheter. Apprendre que la relation à l'objet n'est pas immédiate, que l'on ne se sert pas quand on veut quelque chose, mais qu'il y a des conditions à respecter, tout cela suppose une éducation. Et l'éducation a une relation non immédiate aux objets, c'est-à-dire l'éducation tout court, le surmoi, semble bien être, sauf exception, ce qui manque le plus à nos classes sociales dirigeantes, banquiers, grands patrons, politiciens ou people. Leur mauvais exemple est ensuite suivi par des milliers, voire des millions d'individus de milieux plus modestes qui n'ont pas reçu non plus les moyens psychiques de se prémunir contre les ravages du désir mimétique. C'est-à-dire l'envie irrépressible de ressembler à ce qui est donné par tous les médias sans exception comme modèle de réussite sociale. Sublimation et sécurité. L'individu reçoit tout ce qu'il est de ses ancêtres et de son environnement. Si les lignes de construction de sa personnalité ont été déstructurées, ce sera toujours par des troubles dans son histoire généalogique ou par un environnement pathogène comme celui des médias de masse et de la publicité. La lutte contre la contamination des classes sociales populaires par ce profil psychologique pervers venu des classes dominantes suppose de resublimer l'esprit de ces classes populaires, donc de réinstituer du surmoi, de l'inhibition comportementale, éthique et socialisante, autrement dit de l'éducation, de la spiritualité et de l'empathie. Le milieu carcéral ne doit pas y échapper, car la réinsertion des détenus se joue majoritairement dans ces classes populaires. En effet, s'il y a davantage de délinquants et de criminels dans les milieux du pouvoir que dans nos cités HLM et nos banlieues, il n'en reste pas moins que les riches et les puissants disposent plus facilement des moyens d'échapper à la justice. En toute injustice, donc, la population carcérale se trouve essentiellement constituée d'individus d'origine modeste. Réinjecter du surmoi dans la société suppose de réinjecter de la sublimation, c'est-à-dire un rapport spirituel et ou rationnel au monde. Cela revient à réinjecter de la sécurité. Le surmoi est le terme générique pour désigner les effets de structuration mentale et comportementale de la religion et de la raison, du mythos et du logos. Faire appel à ces formes du discours s'avère le seul moyen de se protéger contre les effets déstructurants et criminogènes de la ruse, la métisse, comme modèle de rapport au monde induit par l'ingénierie sociale du pouvoir. Au niveau de ces effets de sublimation sur le sujet parlant, la religion peut être complémentaire de la logique et des études. Ces deux rapports au langage, que l'on oppose parfois, ont pourtant pour effet commun, quand ils sont bien compris, d'introduire de la rigueur, de la droiture, de la discipline, bref, de l'éthique, de la morale et donc de la sécurité, condition sine qua non de la socialisation et de la vie en commun. Se consacrer à l'une ou l'autre forme du discours, en prison ou ailleurs, ne peut avoir qu'un effet bénéfique sur soi et sur le système.